Mesdames, Messieurs, bienvenue au consulat honoraire du Mexique à Bordeaux. Pour le Mexique, l'année 2010 sera marquée par la double commémoration révolutionnaire, de septembre 1810 à novembre 1910. Ce bicentenaire d'indépendance du Mexique est centenaire de sa révolution. Il faut dire aussi que c'est une date remarquable aujourd'hui, le 5 octobre, puisque c'est Francisco Madero qui avait rédigé le plan de San Luis Potosí. Donc, ça sera une préfiguration de ce que sera l'année du Mexique en France en 2011, qui sera une année marquée surtout sur le plan culturel et sur le plan économique. Je vous remercie. Je laisse la parole à M. Ordonez, qui est ministre de l'ambassade du Mexique en France.
Merci, cher M. Mola. C'est un honneur pour moi faire l'inauguration de cette colloque. Et je me permettrai de faire mon intervention en espagnol, si ça va bien avec vous. Et j'ai ici une traduction du français, mais je ne suis pas assez convaincu. Donc, je préfère le faire en espagnol. Señoras y señores, el siglo XIX mexicano se caracterizó por la constante inestabilidad política que cesó hacia 1876 con el acceso al poder del presidente Porfirio Díaz. Díaz logró apaciguar al país, unificarlo administrativamente y darle la viabilidad institucional y certidumbre jurídica indispensables. Este hecho permitió a México ser un destino apetecible para los capitales europeos que la llamada Paz Armada puso a disposición de los países que hoy son el núcleo económico de América Latina: México, Brasil y Argentina. De los 1.700 millones que hacia 1890 alcanzaba la inversión extranjera en México, el 62% provenía de Europa en general, 27% de Francia en particular. Así las cosas, si en 1877 la red ferroviaria mexicana apenas alcanzaba los 659 kilómetros en una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, para 1884, es decir, apenas 7 años más tarde, esta sobrepasaba los 5.730 kilómetros y en 1902 llegaba a 15.000. Con el telégrafo sucedió algo similar. De 9.000 kilómetros en 1877, pasó a 40.000 en 1888 y a 70.000 en 1902. La producción de manufacturas aumentó de 75 millones de pesos en 1877 a 163 millones entre 1900 y 1905. En 12 años, las exportaciones crecieron de 20 a 50 millones de pesos. Paralelamente, a lo largo del periodo antes mencionado, la mortalidad infantil disminuyó, se elevó la expectativa de vida de la población y los niveles de educación alcanzaron el punto más alto de la historia nacional hasta ese momento. En lo ideológico, Díaz intentó la conciliación doctrinaria de los bandos cuyo desencuentro tantos males había traído al país. Con la ayuda del grupo de intelectuales casi adolescentes que giraban en torno al periódico La Libertad, capitaneado por Justo Sierra, se integró la plataforma conceptual del régimen y a este corpus se le designó como liberalismo conservador. Las páginas de La Libertad fueron el escenario de los primeros enfrentamientos entre los liberales de viejo y de nuevo cuño. Tal es el caso de la polémica que Justo Sierra y José María Vigil sostuvieron entre julio y octubre de 1878. Los jóvenes de la libertad le propusieron al poder sentar las bases intelectuales de lo que avizoraron como una inminente era de orden y progreso. En consonancia con la doctrina filosófica al uso de la época, asumieron como propia la sentencia comteana de que las cuestiones sociales no debían abandonarse a la ceguera de un, comillas, público incompetente. No obstante, Sierra marcó su distancia tanto del liberalismo como del positivismo ortodoxos. Pero no solo eso. En su heterodoxia radicó el espíritu que habría de guiar la praxis intelectual y política del Ateneo de la Juventud. A la larga, Sierra fue consecuente con su afirmación sobre la filosofía del espíritu. Esa íntima convicción lo llevaría a dar foro a sus pupilos ateneístas en 1909 y a estos a concebir el México institucional, intelectual y artístico posterior a la sucesión de insurrecciones que la generación de 1915 articuló conceptualmente como Revolución Mexicana. No cabe duda que los discípulos de Justo Sierra cumplieron a cabalidad lo que de ellos se esperaba. Ensamblaron un sólido discurso de ruptura que dio viabilidad a un país determinado por la coyuntura brutal del siglo XX y que vio en el aislacionismo nacionalista su salvoconducto. Entendiblemente, afirmaron en la negación del porfiriato la originalidad de su presente y de la misma forma anclaron el origen de la mexicanidad en un imaginario prehispánico que lamentablemente acabó convirtiendo a la población indígena viva, es decir, concreta, en un objeto de culto mitológico, pero al mismo tiempo víctima de la injusticia social. La transformación del proyecto nacional, iniciada en 1982, pero claramente perceptible a partir de 1988, con la incorporación definitiva de México a los procesos planetarios, que la tradición francesa llama mundialización y la anglosajona globalización, ¿acaso haya implicado el desmantelamiento del universo de símbolos sólidamente construido durante las décadas inmediatamente posteriores a la Revolución Mexicana, precisamente por los discípulos de Justo Sierra y enfáticamente reproducido por el discurso educativo a lo largo del siglo XX? Me pregunto si parte del difícil momento por el que atravesamos actualmente los mexicanos tiene que ver con lo que pareciera una fractura importante en el imaginario colectivo nacional. Hoy, a casi 200 años de vida independiente y a 100 de la revolución, es necesaria una visión que integre de manera coherente las etapas que el discurso oficial simplistamente ha presentado como tajantes rupturas. Los mexicanos, por ejemplo, deberíamos reivindicarnos como uno de los frutos primigenios del sincretismo euroamericano de finales del siglo XV y comienzos del XVI para nuestro propio beneficio en una coyuntura de mundialización irreversible como la actual. A 100 años de distancia, me pregunto si continuaremos percibiendo nuestro presente como el resultado de una fractura de finales del siglo XIX o tendremos la grandeza de espíritu para permitirle a nuestro inquilino de Montparnasse el regreso a la tierra de la que nunca renegó. Tengo la certeza de que encuentros como el que hoy nos conjunta son de la mayor importancia. Reflexionar sobre el camino recorrido resulta fundamental para determinar el rumbo que queremos seguir de cara al futuro. En este ejercicio, la luz que arroja el pensamiento francés nos ha sido invaluable antes y así lo será en esta ocasión. Señoras y señores, en nombre del embajador de México en Francia, el embajador Carlos de Icaza, tengo el honor de dar inicio a este coloquio un ejemplo concreto más de la íntima vinculación histórica, cultural e intelectual que une a las naciones de México y de Francia. Muchas gracias.
Bon, nous remercions Monsieur le consul honoraire, Monsieur Mola, donc d'avoir proposé d'accueillir cette journée d'études, ce colloque sur les révolutions mexicaines, et d'avoir proposé également la thématique sur la révolution mexicaine et le modèle français. Donc là, la date a été rappelée. Monsieur Mola l'a rappelé, n'a pas été choisi au hasard, hein, le 5 octobre 1910, et là, 5 octobre 2010. Bien des choses au Mexique se sont passées hein, depuis. Monsieur le ministre qui nous a fait l'honneur de venir se joindre à nous vient de très éloquemment le rappeler et suggérer un certain nombre de réflexions sur non seulement sur l'histoire et l'histoire en longue durée, puisque Monsieur le ministre a rappelé cette rencontre syncrétique, l'événement syncrétique du XVIe siècle, jusqu'au Mexique très actuel, très contemporain, et même donc au Mexique probable, en tout cas, ou souhaité, en tout cas, des décennies des années et des décennies qui viennent. Je suis donc effectivement très, très honoré, j'ai la charge hein, de coordonner cette journée d'études, ce colloque. Nous avons la chance hein, d'avoir Madame Elisa Cárdenas Ayala de l'Université de Guadalajara, qui va nous proposer une introduction générale à notre thématique. Ensuite, nous entrerons dans après une pause, je pense, hein, après votre intervention, nous entrerons dans les communications proprement dites, hein, avec la communication de Michel Bertrand, professeur à l'Université de Toulouse, qui viendra nous faire part, si le thème n'a pas changé, c'est les Lumières, donc au Mexique. Alors, juste quelques mots, si vous le permettez, avant l'intervention de Madame Cárdenas Ayala. Monsieur Mola l'a rappelé, on a un double anniversaire, hein, double commémoration, hein, les 200 ans du Grito de Dolores du curé Hidalgo, donc même si là c'est pas au jour près, mais c'est pratique presque à la semaine près, et puis les 100 ans l'appel hein, de San Luis de Potosí, de Francisco Madero, qui s'inscrivait déjà plutôt précisément dans la célébration du centenaire hein, de l'événement précédent. Cet événement précédent, donc celui de 1810, c'est le grand signal, hein, le grand signal non seulement mexicain, mais plus globalement le grand signal latino-américain, d'une révolution qui mènera après de longs combats et des péripéties que je pars au Mexique et ailleurs retracer ici aux indépendances. 1810, bon, on est dans la phase historique des révolutions que d'aucuns ont appelées il y a déjà bien longtemps les révolutions atlantiques. Donc en partant des révolutions nord-américaines, voire peut-être même anglaises, jusque ce cycle révolutionnaire qui s'achève, hein, ou s'achèverait alors en 1815, en 1848, bon, c'est pas l'objet de la discussion ici, et avec l'événement central, qui est celui de la majeur, hein, non seulement central, majeur, mais pesant, qui est celui de la Révolution française. La Révolution mexicaine, 1810, il y a un décalage chronologique. Bon. Alors, quelle est la signification, que faire de ce décalage chronologique? lorsque l'on est évidemment français, c'est toujours délicat de poser l'antériorité, voire l'exceptionnalité française, en tout cas et l'importance. On peut à bon droit être soupçonné, si on, justement en insistant sur ces décalages, de francocentrisme ou gallocentrisme. Évidemment, on ne saurait jurer de rien, fût-ce à notre corps défendant, mais en tout cas, on peut s'efforcer de rappeler que les élites latino-américaines et mexicaines en particulier, elles-mêmes, et Monsieur le ministre l'a rappelé en creux tout à l'heure, elles-mêmes ont, depuis le début du XIXe siècle, ont eu, alors, la France comme référence, pour le moins, pour souligner, je prends le terme de référence qui est pour l'instant plus neutre, pour souligner des ressemblances, une source d'inspiration, des influences, voire, pour y puiser de l'imitation, du mimétisme, là on est dans un autre degré, et y chercher valeur d'exemple, s'approprier un modèle, et je pense qu'on aura justement l'occasion de réfléchir sur la notion un peu plus loin, ou à l'occasion, s'en distinguer. Puisque de quel modèle s'agit-il? Ou de quelle référence? Ou à quoi on se réfère? Lorsqu'on se réfère à la France, si tant est qu'on s'y réfère, c'est un rapport complexe, je ne vais pas traiter ici, mais évidemment que chacun peut mesurer, entre quel est ce modèle français, entre lumière et révolution, prend-on l'un, enfin, ou les unes et l'autre, les unes ou l'autre, les unes et l'autre, et dans quelle mesure, considérer donc la révolution comme fille des lumières, ou de conserver dans celle-ci, dans la révolution, que ce qui et immédiatement dans la généalogie des Lumières, et donc considérer que bien que la Révolution dans son ensemble peut être comme une sorte de fille dévoyée, à partir de 92, à partir de... ainsi de suite, ou, bon, d'en dire toute une série de prises de position, de prises de position des contemporains, des années 1810 et suivantes, de prises de position des hommes du XIXe siècle, et notamment de ceux qui stabilisent et construisent, comme l'a rappelé le ministre, le Mexique à la fin du XIXe sous le Porfiriat. Enfin aussi, pour nous, des sources d'investigation et de réflexion pour les historiens, au XXe siècle et au début du XXIe siècle. En fait, notre point, c'est considérer si la modernité politique mexicaine, qui nous intéresse, serait-elle si exclusivement française. On sait mieux aujourd'hui qu'hier, depuis déjà un certain nombre de décennies, que hier, c'est-à-dire que au XIXe siècle, notamment, et même peut-être encore au début du XXe siècle, c'est particulièrement au XIXe siècle où pour les Mexicains, l'impératif anti-espagnol était une sorte de condition de construction de l'identité nationale. On sait mieux aujourd'hui que, et obligé donc à gommer les héritages ibériques, on sait donc mieux ce que la construction des identités nationales en Amérique latine et au Mexique doit précisément, évidemment avec selon des modalités et selon des dosages différents, aux lumières hispaniques du XVIIIe, je pense que Michel Bertrand en parlera tout à l'heure, et au libéralisme espagnol sinon se construit, en tout cas s'affirme, et s'affirme ô combien nettement, dès 1812, donc à Cadiz. C'est dire par là que, au cœur même du XIXe siècle, on ne saurait parler, hein, y compris en plein XIXe, d'exclusivité du modèle français, hein, même si on ne le traite pas. En tout cas, il faut songer qu'il y a d'autres, hein, influences qui, pour être moins rayonnantes ou séduisantes, surtout effectivement lorsque l'on est soi-même français, hein, ont joué, hein, au Mexique, hein, comme ailleurs, notamment des influences anglo-saxonnes, britanniques et surtout et nord-américaines, mais également hispaniques. Et c'est François-Xavier Guerra qui disait, hein, que le libéralisme mexicain, hein, devait davantage au libéralisme espagnol qu'à quelconque co-libéralisme français, hein, si tant est qu'on puisse définir ce dernier. Alors, c'est dire, en fait, au bout du compte, hein, et compte tenu non seulement des références idéologiques, mais de l'histoire, hein, et d'une histoire mexicaine du XIXe siècle, disons, riche, avec donc les guerres d'indépendance, hein, la proclamation d'un empereur, le mouvement, donc tout l'épisode autour de Santa Anna, ensuite la réforme du milieu du siècle, réforme libérale avec des caractères quand même très avancés, particulièrement dans les domaines idéologiques, hein, notamment culturels, enfin et religieux, hein. L'intervention française lors de l'épisode de Maximilien, une intervention française d'ailleurs de type très particulier, puisque là, ce n'est pas la France révolutionnaire, hein, qui est... Alors, je dirais pas que c'est les 100 000 fils de Saint-Louis, c'est pas tout à fait la France réactionnaire des 100 000 fils de Saint-Louis intervenant en Espagne une trentaine d'années plus tôt, mais les Français qui sont autour de Maximilien, ce sont pas des Jacobins, ce sont pas les références de Jacobins et les Mexicains qui bon, alors donc des choses assez compliquées, enfin ou disons qui ne suivent pas des modèles tout tracés, bien entendu et heureusement en histoire. Et alors vous allez me dire, la belle affaire que de tomber, terminer par ça, hein, par une voie mexicaine, hein, comme voie spécifique de la modernité, ça rejoint un petit peu ce que disait Monsieur le Ministre, hein, c'est effectivement, il y a, je pense qu'au-delà, hein, de la rhétorique, il y a véritablement, enfin ça, les spécialistes me contrediront peut-être, hein, une voie mexicaine de la modernité où passer, mais où malgré tout, où on doit intégrer à la fois ou réinterpréter ce qui déjà est fait déjà depuis quelque temps, le long épisode et épisode fondamental, important, du Porfiria, hein, comme vient de le faire Monsieur le Ministre, mais où, ce qui ne signifie pas, hein, que sous prétexte, hein, de réinterprétation, on puisse gommer ou lisser les événements révolutionnaires, celui de 1810, bien entendu, mais également celui de 1910. C'est d'ailleurs, hein, celui de 1910, non seulement parce qu'il est de l'événement mythe fondateur en lui-même, la révolution de 1910, mais également, comme il été rappelé, parce que cet événement structure, au moins idéologiquement, mais pas seulement idéologiquement, y compris aussi, notamment dans les années 30, l'histoire du Mexique du XXe siècle. Et malgré tout, le Mexique du XXIe siècle, comme toute société à un moment donné, c'est aussi effectivement celle de des décennies, voire des siècles passés. Voilà. Donc après ces propos très généraux, hein, préliminaires, donc je laisse la parole à ma collègue, donc Elisa Cárdenas Ayala de l'Université de Guadalajara.
Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Et je tiens d'abord à remercier le consulat honoraire du Mexique à Bordeaux, et très particulièrement donc Monsieur Moula pour cette invitation, et évidemment le professeur Alexandre Fernandez pour cette initiative et la générosité de me faire partager cette séance inaugurale. Et vu le programme du colloque que nous avons pour la journée, moi j'ai souhaité poser quelques interrogations générales sur le thème « Les révolutions mexicaines » et le modèle français que le titre même du colloque marque entre guillemets, en espérant que dans les propos que j'avance, mes collègues trouveront soit, sans doute à redire et beaucoup à questionner, mais c'est quand même la fonction même du colloque. Et donc, voilà, je trouve que le fait même de poser une réflexion sur le long de à peu près un siècle, un peu plus qu'un siècle, vu qu'on reprend le modèle français en songeant à la Révolution, comme ça a été dit par M. Fernandez, ce fait même permet de questionner la notion de révolution, d'une part, la notion de modèle, d'autre part. Donc il est vrai que l'année 2010 fournit aux Mexicains, comme citoyens d'abord, mais à l'historiographie mexicaniste, qu'elle soit mexicaine ou pas, l'occasion de s'interroger sur ces deux moments, sur ces deux mythes fondateurs de la nation contemporaine. Du fait de cette coïncidence commémorative entre les débuts d'une révolution, la révolution d'indépendance, et les débuts de cette révolution mexicaine, une coïncidence qui est bien loin d'être seulement une coïncidence. Je voudrais faire remarquer pour le public français plus spécialement que pendant très longtemps, pour nous, Mexicains, il n'y avait de révolution que la révolution de 1910. Et qu'il a fallu que les historiens fassent tout un effort pour qu'on accepte que ce qu'on appelait la guerre d'indépendance pouvait aussi être conçu comme une révolution. Et qu'il y avait d'autres moments qui pouvaient mériter cette étiquette. Alors, c'est vrai que ça paraît une occasion rêvée, mais comme toute occasion rêvée, elle est semée de pièges, tout autant que de lieux communs. Des lieux communs où la mémoire publique s'installe, elle prend ses aises, et où la mémoire d'État se fait et s'impose comme mémoire publique. Or, il est certain que ces deux moments sont en quelque sorte aussi un lieu de départ et un lieu d'arrivée, si on s'intéresse au poids qu'a pu avoir un modèle français, qui serait un modèle politique condensé dans des mots tels que les Lumières, la Révolution ou la République. Comme je crois, les communications qu'on entendra pendant ce colloque vont explorer. Et en effet, il est possible de suivre et d'analyser les mutations de la fonction de ce modèle, et que dire des mutations du modèle lui-même, au long d'un siècle, qui est celui de la création d'une nation nouvelle, de ses institutions et de son imaginaire. Mais un siècle qui est aussi celui de la réinvention de la démocratie et de la République à échelle internationale, et de la confrontation du modèle républicain à celui de la monarchie. Le siècle, enfin, de la réélaboration de la monarchie pour l'approcher des principes nouveaux du politique et du citoyen. Donc un siècle qui est également celui de la transformation de la Révolution française en patrimoine international par le biais d'une connotation de plus en plus positive de son héritage politique et idéologique, ce qui n'était pas du tout le cas au début du XIXe siècle. Donc, par la construction d'une série de stéréotypes qui vont s'éloigner de plus en plus de la nuance. C'est-à-dire quand on songe à la conception qu'on avait et le discours qui se produisait autour des années 1800-1810, quand on parlait de la Révolution française dans le monde hispanique, il est clair qu'on trouve des stéréotypes très, très ancrés, c'est-à-dire la Révolution française, c'est le diable. Quand on songe aux stéréotypes qui résultent de tout un siècle de réélaboration de cette image, la Révolution française, comme l'a rappelé M. Ordóñez dans son discours inaugural, c'est aussi la civilisation. Comment le diable, en espace d'un siècle, devient civilisation? Et c'est en cela que l'on pourrait interroger, que l'on devrait interroger également cette action des communautés politiques internationales, c'est-à-dire des communautés politiques étrangères à la France, dans la construction et dans la reconstruction du modèle ou du dit modèle de la Révolution française et dans les mutations profondes de ce modèle. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que non seulement on peut interroger l'influence de ce modèle français construit et qui n'est jamais un seul modèle, sur des pays concrets, le Mexique en l'occurrence, mais d'autres pays aussi, mais on devrait aussi interroger ce que les représentations de la France à l'extérieur de la France, on produit sur ce qu'on appelle maintenant le modèle français. Donc on ne peut sans doute pas éviter cette double question, d'une part, quelle révolution, d'autre part, quel modèle, modèle au singulier, modèle au pluriel. Et puis évidemment, cette question de comment s'approcher d'un va-et-vient transatlantique, d'un lien entre des révolutions et cet horizon vaste que représentent les Lumières, la Révolution française, et puis aussi les républiques à la française. Quelque chose qu'au début du XIXe siècle, l'évêque du Michoacán, Abadi Queipo, a synthétisé dans une expression que je trouve très heureuse, qui était « le feu électrique de la Révolution française ». El fuego eléctrico de la Révolution française. Alors, quant à la question de savoir quelle révolution, une réponse est proposée par le programme même du colloque, qui fait une place particulière à ces deux grandes révolutions, centenaire l'une, bicentenaire l'autre, que reconnaît non seulement l'historiographie, mais surtout le politique. Alors que cette réponse donne lieu à d'autres questions, c'est très clair, et j'y reviendrai. Mais autour du modèle se posent d'autre part de multiples questions que les guillemets du titre viennent souligner. Je dirais des difficultés autour de la notion même du modèle. Faudrait-il penser, avec Julio Cortázar, dans les termes du modelo para armas? Comment est-ce qu'on dit ça en français?
Modèle, oui.
À construire. Ou alors, dans quelle mesure songerait-on à un modèle à suivre ou alors un exemple à exorciser? Bon, une partie des réponses est de nature transatlantique. Elle concerne de près les révolutions hispaniques en Europe comme en Amérique. Mais elle est aussi transpyrénéenne, est fortement liée à cette vocation impériale que la France a cru se reconnaître sous le guide de Napoléon. Alors le modèle français a été associé autant à la tête du roi séparé définitivement de son corps que à l'action des armées conquérantes. Et ça n'a pas été la seule occasion. C'est-à-dire, ça a été pour la première fois au moment de l'invasion de l'Espagne, et d'autres fois, et le cas du Mexique le rappellera très fort, dans les années 60 du 19e. Donc ça, c'est une partie de réponse. Mais une autre série de réponses oblige à tourner le regard vers Rome et vers l'univers catholique. Et cette série de réponses, elle est liée à cette plus que proverbiale catholicité hispanique, à ces expressions mexicaines, que toutes les idées véhiculées par la Révolution française, ou alors celles qu'on mettait dans le lot de l'héritage français, semblaient pouvoir soumettre à rude épreuve. Alors cette série de réponses, liée à l'histoire de la sécularisation et de la laïcité, permet de mieux apprécier la transformation d'un horizon français de référence. Elle va concerner de près la construction d'un modèle républicain, et surtout, du point de vue de l'historien, elle permet de teindre un pont pour la compréhension historique de ce qui se passe entre le moment des Lumières et puis cet anticléricalisme d'État à la mexicaine, qui est consacré par la Constitution de 1917, qui pose les bases du régime de la Révolution, un régime qui ne reconnaît pas d'existence légale pour l'Église. Alors, des difficultés pour le travail de l'historien aujourd'hui sont liées très fortement, entre autres, à l'ambiguïté du discours des acteurs. C'est-à-dire qu'au long de ce siècle, on n'est pas toujours sûr, devant le discours des acteurs, de savoir quelle est la France évoquée derrière des fantômes ou des fantasmes. Qu'est-ce qui sépare cette France évoquée entre fascination et hantise, lecture clandestine, idées proscrites, persécution politique et idéologique, au tournant entre le 18e et le 19e siècle, de cette France symbole de civilisation et de progrès et modèle avoué du gouvernement porphyrien à la fin du 19e. Ou que séparent encore ces images de révolution, d'une révolution qui met la catholicité en péril, de cet anticléricalisme au début du 20e siècle qui va revendiquer l'étiquette jacobine comme un symbole du combat contre l'obscurantisme. Quel est encore le rôle ou le poids de cette révolution française, à un moment où elle est déjà plus que centenaire et où surtout elle a été transformée en monument à échelle internationale comme symbole de mouvement civilisateur. Alors quel est son poids sur un ensemble de mouvements sociaux qui aujourd'hui reçoivent le nom de révolution mexicaine? Et surtout, qu'est-ce qui a bougé au long d'un siècle qui permet de nommer ce qui autrefois était innommable? Par quel biais, par exemple, la démocratie, ce mot qu'on ose à peine prononcer au début du 19e, parce qu'il est trop assimilé à la persécution jacobine et souvent taxé de démagogie, ça au moins jusque dans les années 1840. Alors par quel biais ce mot devient un lieu incontournable du discours politique, même si on ne parle plus nécessairement de la France? Bon, il me paraît qu'une autre révolution dont l'historiographie à l'heure actuelle ne reconnaît pas toujours le caractère exprime et est elle-même le point d'inflexion du rapport à ce que la France était devenue comme modèle. Et cela en dépit du fait que cette révolution s'est aussi élevée contre les armées de Napoléon III lorsqu'elles sont allées au Mexique soutenir l'empire de Maximilien. Donc il s'agit de celle que le Mexique connaît aujourd'hui comme la réforme libérale, mais dont les acteurs principaux et les ennemis acharnés ont revendiqué toujours le caractère révolutionnaire. Donc c'est cette révolution libérale des années de la fin des années 1850 et puis 1860 qui est un moment et un lieu privilégié d'observation où l'on peut constater que le rapport entre un modèle français issu de la révolution de 1789 et les révolutionnaires mexicains a changé. Ça passe par un changement radical du concept de sécularisation et par la naissance du concept de laïcité. Donc, entre-temps, la souveraineté avait quitté le roi pour asseoir le gouvernement représentatif et républicain. Alors, ces trois révolutions, puisque je propose d'inclure une troisième, permettent de suivre les mutations du modèle lui-même. Et c'est ça qui est, à mon avis, particulièrement intéressant. Elles permettent de comprendre ce qui est aussi placé au cœur de ce modèle à des moments différents. Si on accepte l'idée que le modèle est issu de faits historiques et puis transformé par ceux qui s'intéressent. Donc autour de 1810, avec la catholicité au centre, le Mexique, enfin ce qu'on appelle maintenant le Mexique, mais la Nouvelle-Espagne, mettra en question la souveraineté du roi. Mais en gardant quand même cette distance du jacobinisme qui essaie de préserver la catholicité comme l'axe principal et la marque, la raison d'être de la nation même. Dans les années 1856-60, il est question surtout de la République et de la laïcité. C'est-à-dire au moment même où la France est sortie de la République, le Mexique va retrouver les éléments du modèle républicain français et va développer, en allant même plus loin que la France en ce moment, la question de la laïcité pour poser presque cinq décennies à l'avance le besoin de la séparation légale entre l'Église et l'État. En 1910, c'est la démocratie qui va prendre sa place, certes pour très peu de temps. Elle va prendre une place dans le discours. Et c'est le principe, encore une fois, en allant plus loin que ce que posait le modèle démocratique français, en poussant sur le besoin de la non-réélection, un principe qui fait toujours partie des institutions politiques mexicaines et qui, sans doute, était une façon de reprendre ce modèle de république issu de cette nouvelle politique à la française, sans plus vraiment nommer la France, puisqu'elle n'est plus au cœur des débats, elle ne menace plus la catholicité, elle ne menace plus les raisons d'être de la nation, mais pour pouvoir mettre au cœur de la nouvelle construction le citoyen et le modèle démocratique. Alors, trois moments qui synthétisent les mutations d'un rapport complexe qui est traversé des tensions multiples et dont, sans doute, les communications de ce colloque permettront d'enrichir l'analyse. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Si vous le voulez bien, nous allons reprendre. Donc, nous allons écouter le professeur Michel Bertrand de l'Université de Toulouse-le-Mirail nous évoquer les Lumières françaises et le Mexique. Donc,
bien, merci. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette journée, ce colloque, de leur invitation, qui me permet de venir à Bordeaux en voisin, puisqu'en effet, je ne viens que de Toulouse. Et je voudrais commencer mon propos en reprenant un petit peu ce qu'a dit Elisa Cárdenas dans sa présentation à propos de la réflexion qu'elle a menée sur la notion de modèle. Et reprenant, on ne s'est pas concerté, mais reprenant en fait un petit peu ce qu'elle a dit, moi je m'appuierai sur un texte de 1948, un texte bref du grand historien hispaniste Pierre Villard, ou historien des Espagnes, comme il aimait à dire, qui me semble poser parfaitement la question à laquelle ce colloque nous invite à réfléchir. Et je voudrais vous lire ce texte, mais pas très long. Deux sociétés voisines, si l'histoire les a séparées, n'émettent ni n'absorbent uniformément au même moment les mêmes idées. Voilà ce dont on n'a pas assez tenu compte, et rendu compte encore moins, en confrontant, comme on a fait souvent, l'Espagne et la France du XVIIIe siècle. Et il rajoute, à la pensée venue d'outre-mont, la structure sociale espagnole oppose une relative imperméabilité, au moins un filtrage. Les milieux mêmes qui sont pénétrés ne transmettent que très atténués la virulence d'une ironie, d'une critique, d'une certitude de soi, irritante peut-être, mais qui donne sa portée révolutionnaire à l'œuvre des philosophes. Il me semble en effet que cette phrase, on pourrait véritablement, à partir de ces réflexions de Pierre Villard, transposer telles quelles ces réflexions au sujet de ce colloque sur les relations entre le modèle français, en effet, même si « modèle » est mis entre guillemets, et les révolutions mexicaines. Dans le cas de la première révolution, et je mettrai le mot « révolution » entre guillemets, dans le cas de la première révolution mexicaine, c'est-à-dire celle de 1810, cela revient en effet, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que j'ai compris la proposition d'intervention qui m'était faite, cela revient à s'interroger sur l'écho des Lumières dans la crise d'indépendance. Longtemps, l'historiographie de cette question des indépendances a centré son attention sur les problèmes et les structures économiques et sociales de la fin de la période coloniale. Certes, depuis une vingtaine d'années, là encore, Alexandre Fernandez l'a rappelé, depuis une vingtaine d'années, sous l'impulsion de François-Xavier Guerra, et j'en profite pour honorer la mémoire de celui qui fut mon maître, l'un de mes deux maîtres, parce que j'en ai eu deux, Jean-Pierre Berthe et lui. Donc, sous l'impulsion de François-Xavier Guerra, les dimensions politiques et intellectuelles de cette crise des années 1808-1810 ont été prises en compte. Cependant, cette espèce de barrière infranchissable, entre guillemets infranchissable, de 1808, c'est-à-dire cette date qui sépare le monde de la colonie et le monde de l'histoire indépendante, a longtemps empêché de penser la continuité entre la seconde moitié du XVIIIe siècle et les années de la crise de l'indépendance et d'après-indépendance. Certes, donc, grâce à cette impulsion lancée par François-Xavier Guerra et d'autres, grâce aussi à quelques études récentes, on commence à disposer aujourd'hui d'une véritable réflexion d'ensemble, posant la question des processus politiques de la crise d'indépendance abordés dans la longue durée, comme aurait dit Fernand Braudel. De fait, c'est précisément dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle qu'ont lieu les deux révolutions, et là encore, ça a été rappelé par Alexandre Fernandez, les deux révolutions qui servent de référence au processus politique mexicain initié en 1810. D'une part, la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, bien sûr, et ensuite, bien sûr aussi, la Révolution française. Ces événements vont alimenter au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle une profonde évolution, pas toujours visible, mais essentielle dans le cadre mexicain, à travers la montée en puissance des idées qui sont bien, et c'est ce que je vais essayer de montrer ce matin, qui sont bien des idées des Lumières. Et surtout, idées des Lumières traduites dans la politique et plus précisément dans la réflexion relative à la forme et au fonctionnement du gouvernement, comme on dirait aujourd'hui dans la gouvernance. Alors, ces liens, si vous voulez, entre ces révolutions donc de la seconde moitié du XVIIIe siècle et les événements, disons, mexicains, ont été traduits dès les années 50, et là encore, Alexandre Fernandez le rappelait, des années 50 dans le concept ou la catégorie, la notion de révolution atlantique, lancée notamment par un historien toulousain, mais oui, Jacques Gauthier, pas le seul, mais c'est vrai qu'il a contribué à asseoir cette idée, et dont l'idée, le contenu était assez simple. Il s'agissait de souligner les interdépendances entre les trois épisodes, même si lui, il insistait surtout sur deux, la France et les États-Unis, ou les États-Unis et la France. Cependant, cette catégorie de révolution atlantique, on peut dire, n'a pas eu tellement de succès. Mais il faut rappeler pour cela peut-être le contexte lui-même dans lequel elle émerge, ce contexte de guerre froide, qui fait qu'elle a été rapidement vue comme une volonté d'annexion, si vous voulez, par le bloc américain des idées de la révolution française, jacobine et révolutionnaire. Cependant, je crois qu'il est important de souligner que cette notion donc, qui apparaît dans les années 50-60 est aujourd'hui revisitée et reprise par des jeunes historiens qui sont en train aujourd'hui de lui redonner tout son sens et toute son importance, et en particulier en étendant cette notion de révolution atlantique au-delà de 1799, comme le faisaient donc les fondateurs Palmer, Ocotillo, etc., jusqu'à précisément les crises d'indépendance latino-américaine dans leur ensemble. Mon propos, donc, aujourd'hui, va être de, rapidement, revenir sur cette étroite relation entre les événements politiques états-uniens et français et ceux qui se déroulent au Mexique, donc, à partir ou autour de 1810. Et je voudrais, donc, mener cette réflexion en deux temps. D'une part, là encore, comme le disait, peut-être en s'inquiétant, d'ailleurs, Alexandre Fernandez, en essayant de voir comment les Lumières pénètrent en effet en Nouvelle-Espagne, donc en effet, ce qui répond au titre que j'avais donné, et puis j'essaierai de traduire dans un deuxième temps comment ces idées des Lumières vont avoir une traduction, si l'on peut dire, dans le gouvernement vice-royal avant la rupture des indépendances. Premier temps donc, de ma réflexion, la pénétration des Lumières dans le Mexique colonial. En fait, on peut dire qu'on peut remonter assez loin dans le XVIIIe siècle mexicain pour voir émerger dans ce qui est encore la Nouvelle-Espagne, voir émerger ou se répandre les idées qui incarnent, on peut dire, les Lumières, à savoir le rationalisme, par exemple, ou, autre exemple, la nouvelle philosophie de la nature. Et dans cette Nouvelle-Espagne qui nous intéresse, l'un des principaux relais de cette pénétration, dès les années 1730-1740, très tôt donc, l'un des relais de cette pénétration, ce sont les collèges jésuites. C'est souvent par les jésuites que ces idées venues donc, d'Europe, vous voyez, je ne les francise pas, elles sont européennes, même si la France a peut-être joué un rôle particulier. C'est donc par les jésuites que ces idées sont arrivées. Plus tard, dès le milieu du XVIIIe siècle, on observe la diffusion en Nouvelle-Espagne même de ce que l'on pourrait appeler des sciences, ce qu'on appellerait aujourd'hui des sciences appliquées, c'est-à-dire des sciences qui vont trouver, je dirais, leur origine en fait dans la pensée des Lumières et très concrètement dans le mouvement de l'encyclopédie. Et on en trouve la traduction donc en Nouvelle-Espagne avec par exemple le développement, disons, de connaissances sur la pharmacie, sur la médecine, qui fait partie de ces sciences appliquées, qui émergent comme une science à partir du milieu du XVIIIe siècle, la géographie, qui jusqu'alors était essentiellement un savoir littéraire et qui devient véritablement un savoir à contenu de plus en plus scientifique, les mathématiques, etc., etc., on pourrait multiplier. Parallèlement à cette diffusion, cela se traduit aussi par, je dirais, les transformations des lieux de formation. Et on voit dans ces lieux de formation, en particulier dans l'université à Mexico, on voit se transformer ce que nous appelons aujourd'hui la réforme des maquettes. Et bien, à l'époque aussi, on voit ces maquettes, si l'on peut dire, ces structures donc des disciplines et des enseignements, on voit ces maquettes évoluer, s'adapter pour laisser une place petite, mais laisser tout de même une place à ces nouveaux savoirs venus d'Europe. Il est intéressant de voir cette pénétration de ces nouveaux, cette curiosité pour ces nouveaux savoirs ne se limite pas à l'université, mais on la voit même pénétrer dans les collèges. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, je dirais, on est au milieu du XVIIIe siècle, quelque chose d'assez profond. Tout cela se traduit au Mexique dans le mouvement, la naissance d'un mouvement qu'il faut bien appeler un mouvement des Lumières créole, donc mexicain. Novo Hispano, plutôt que mexicain, parce que mexicain, c'est un anachronisme, c'est-à-dire donc propre à la Nouvelle-Espagne. Ça se traduit en effet, dans cette ville de Mexico en particulier, mais pas seulement, ça se traduit par la création de toute une série d'académies, qui sont les lieux où précisément ces savoirs circulent, les salons, les associations dont certaines extrêmement célèbres, comme la Sociedad de Amigos del País, hein, qui va devenir l'un de ces relais, je dirais, de la circulation de ces nouvelles idées. Ça se traduit aussi par la naissance d'une presse, hein, qui contribue, le rôle de la presse, hein, on le connaît nous aujourd'hui, mais il est déjà très important, contribue à cette popularisation de ces nouvelles idées. Ici, je fais référence à la Gaceta de México, bien entendu, qui joue un rôle essentiel dans cette évolution. Et puis aussi, dans la multiplication d'institutions d'enseignement, universitaires ou même, je dirais peut-être plutôt extra-universitaires, dont certaines ont une vocation très technique ou technologique, mais qui sont l'un de ces vecteurs de l'arrivée ou du développement de ces lumières en Nouvelle-Espagne. Et le meilleur exemple, me semble-t-il, que l'on puisse donner pour Mexico, c'est la création en 1786 du Colegio de Minería, hein, qui est en effet l'exemple même, hein, d'une préoccupation pour ces lumières techniques, si vous voulez, incarnées par l'encyclopédie. On est vraiment, hein, en lien tout à fait avec ces idées donc, des lumières. Ce processus relativement lent, vous voyez, il commence bien 1730, hein, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, ce lent processus de pénétration des idées nouvelles favorise en Nouvelle-Espagne le renforcement de l'antagonisme entre les Européens, les peninsulares, si vous voulez, et les créoles. Ce développement de ces idées nouvelles va offrir à ces derniers de nouveaux instruments intellectuels pour asseoir leur identité, justement, face à ces péninsulaires, hein, face à l'Espagne, sur des bases historico-culturelles différentes, ou qu'ils voudraient différentes, de ce qui fonde l'Espagne impériale. Cela va donc leur permettre d'articuler cette montée d'une identité nouvelle, Novo Hispana, avec, bien sûr, le traduire avec des revendications politiques. Et on voit comment, donc, on passe d'un phénomène culturel à un processus politique. Alors, pas d'anachronisme, il n'est pas question d'indépendance ici, hein, c'est pas ça. Mais il y a déjà, très fortement marqué parmi les élites intellectuelles, l'idée, en effet, que être américain, c'est pas pareil qu'être espagnol. Voilà. Cette évolution est d'ailleurs perçue très nettement par la métropole elle-même. Voilà. Puisque dès le milieu du XVIIIe siècle, autour de Ferdinand VI par exemple, hein, on s'interroge, autour du roi, hein, sur la pertinence d'appliquer ou pas en Amérique les mêmes réformes illustradas du despotisme éclairé, si vous voulez, qu'en métropole. Hein. Et le débat n'est pas simplement un débat entre, comme on l'a souvent réduit à cela, entre modernistes, si vous voulez, ou éclairés, ou encore afrancesados, hein, et antimodernistes, réactionnaires ou traditionalistes. Non. De fait, on remarque que parmi les adversaires de l'application des réformes en Amérique, on a bon nombre des adeptes des réformismes en Espagne même. Vous voyez, ils se rendent bien compte que appliquer ces réformes en Amérique, ça peut être dangereux pour l'Empire. Ils ont déjà conscience, au milieu du XVIIIe siècle, qu'il peut y avoir, je dirais, des dangers pour l'Empire. Et à l'inverse, des partisans de leur application se recrutent aussi bien chez les modernistes radicaux, si vous voulez, que chez les modérés, pas chez les conservateurs, il faut bien le dire. Au début du règne de Charles III, donc à partir des années 1760, ce débat reste toujours très vif autour du roi d'Espagne. Il reste toujours très vif, même s'il se limite pour l'essentiel encore, et surtout à l'application de ces mesures traduisant donc la modernité politique ou les réformes en Espagne. Mais certains pensent déjà à inclure l'Empire. On est dans les années 1760, et je crois que l'un des meilleurs exemples que l'on peut donner, hein, de ces réformateurs espagnols qui pensent qu'il faut intégrer en effet l'Empire à ces réformes, ben c'est l'exemple du comte de Aranda. Hein. Ce comte de Aranda qui rédige pour le roi un projet d'envoi d'un visitador, d'un inspecteur donc, hein, d'un inspecteur en Nouvelle-Espagne, pour implanter, dit-il, un nouveau système d'intendance. Et c'est un avis, simplement, hein, qui n'implique que son auteur. Mais il est proprement révolutionnaire. Écoutez ce que propose Aranda pour le Mexique, pour la Nouvelle-Espagne. Il propose que dans le recrutement des fonctionnaires royaux, on dirait aujourd'hui, donc des officiers, on dit à l'époque, des officiers du roi, on ne prenne en compte que le mérite et les compétences. Je dis bien mérite et compétences. Bien plus, pour cette société coloniale où la question de la couleur, la pigmentocratie est si importante, il suggère de ne pas prendre en compte la dimension raciale et sociale. Et il suggère même, il va jusqu'à proposer l'idée, je dis bien proprement révolutionnaire, d'inclure les castas, donc les métisses, les gens de couleur, comme on dit à Saint-Domingue à l'époque, hein, dans ces recrutements, voire même des Indiens, s'ils sont vraiment très, très acculturés, c'est-à-dire très peu Indiens, quoi. Hein. Son objectif est donc très clairement de fonder en Amérique, alors il ne le dit pas comme ça, mais c'est vraiment ça son idée, de fonder une vraie nation. Une nation dans laquelle se retrouveront Américains et péninsulaires. Pour lui, les réformes, c'est l'occasion hein, de fondre dans un seul et même peuple Américains et péninsulaires. En fait, ce qu'il propose donc dans cette réforme donc des années 1760, hein, c'est de rompre avec le système fondateur de l'ordre colonial. C'est pour ça que je parle de projet véritablement révolutionnaire. Et en fait, il anticipe très clairement à travers ses propositions, il anticipe très clairement sur la proclamation de l'égalité devant la loi. Donc en ce sens, c'est véritablement un texte, je dirais, de rupture. On parle beaucoup de rupture, là c'est un vrai texte de rupture. La philosophie sous-jacente à ce texte d'Aranda est en effet fondée sur l'individu, très clairement. Et on voit bien que pour lui, la finalité de la politique de l'État, c'est d'offrir à l'individu toutes les possibilités pour lui permettre de se développer. En fin de compte, dans l'esprit d'Aranda, le bien général ou le bien de l'État, comme il dit, sont conçus comme l'ensemble des efforts des individus qui contribuent à cet État pour le bien-être de tous. On est ici totalement dans une philosophie, je dirais, hein, ben, oui, on peut le dire, de type républicain. Il y a pas... Et de fait, c'est bien cette réforme, cet esprit, cette vision des choses qui va inspirer la politique du réformisme des Bourbons en Espagne. Elle va inspirer tous les textes des théoriciens donc postérieurs à Aranda, hein, qui vont donc lancer toutes les réformes sous Charles III, bon, à partir de Campio y Cossi, Ovart, Campomanes, etc. Hein, bon, ce sont ces idées-là. Et on va la retrouver, cette philosophie, dans toutes les décisions qui inspirent la politique royale. Par exemple, quand il va s'attaquer aux privilèges, aux monopoles, quand il veut développer l'enseignement scolaire. Vous voyez, bon, il y a cette idée hein, du progrès individuel, etc. Enfin, quand il va se lancer, il faut bien le dire, un peu plus tard, dans la politique de ce qu'on appelle en espagnol la desamortización, hein, qui n'est rien d'autre que la saisie des biens ecclésiastiques. Ça n'est rien d'autre. On voit donc très clairement que ces principes politiques et ces mesures sont donc tout à fait donc, défendus par les conseillers du roi autour de Charles III, hein, sont tout à fait caractéristiques de ce que nous, on pourrait appeler, avec un petit anachronisme, hein, un État libéral bourgeois du XIXe siècle. On est tout à fait dans cet esprit-là. Or, d'où viennent ces idées, d'où viennent ces projets? Ou quelle est leur matrice? Ben, très clairement, leur matrice, c'est la philosophie des Lumières. On est très clairement, je dirais, dans l'idée qu'il faut, en effet, chercher dans cette philosophie des Lumières donc, les sources de l'inspiration pour ces réformes. Conclusion, donc, vous voyez que en Nouvelle-Espagne, hein, avec, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, hein, les idées des Lumières pénètrent effectivement via l'Espagne hein, et vont, de fait, en Nouvelle-Espagne, donc, favoriser l'idée de l'application d'un certain nombre de réformes. Et c'est donc ce que je voudrais voir dans un second temps. Ces mêmes idées, en effet, de réformes politiques qui vont donc être appliquées plutôt en Espagne, c'est vrai, vont donc pénétrer en Amérique et très concrètement, donc, en Nouvelle-Espagne. Alors, dans le cas de la Nouvelle-Espagne, disons que l'idée d'appliquer ces réformes va peut-être émerger un peu plus tard qu'ailleurs, dans d'autres colonies de l'Empire. Elle va émerger un peu plus tard parce que, après ce moment décisif qui aurait dû lancer le processus, qui est la visite de José de Galvez, hein, donc 1766, si vous voulez, 1766-72, hein, après cette visite de Galvez, donc qui s'inscrit totalement dans ce que je viens de dire ici, hein, bon, après cette visite de Galvez, le vice-roi, hein, qui va être nommé, Don Antonio de Bucarelli, hein, est en fait une sorte de, comment pourrais-je le qualifier ? Moi, je dirais de technocrate éclairé, mais très jaloux du pouvoir du vice-roi. Voilà. Donc, de ce fait, l'idée des réformes ne le gêne pas. Mais ce qui le gêne, c'est que dans ces réformes, il puisse y avoir des réformes qui vont minorer le pouvoir vice-royal. Donc, concrètement, on peut dire que la période du règne ou du gouvernement de Bucarelli va signifier la mise entre parenthèses des projets de réforme appliqués à l'administration, si vous voulez, coloniale, hein, de la Nouvelle-Espagne. Et de fait, il faut attendre. Bon, après, il y a un autre épisode qui va interférer, c'est la guerre d'indépendance des États-Unis, bien entendu, et la participation espagnole. Hein. Guerre d'indépendance des États-Unis, je le dis en passant d'ailleurs, parce que souvent c'est trompeur et ça peut tromper les étudiants, je ne sais pas s'il y en a ici, que les anglo-saxons appellent la guerre de 7 ans. Et alors nous, ce n'est pas celle-là qu'on appelle la guerre de 7 ans. Alors parfois ça peut donner des quiproquos assez amusants dans les copies. Hein. Donc il faut attendre donc 1783 concrètement. Il faut attendre 1783 pour que le programme de réforme soit effectivement repris en Nouvelle-Espagne. Hein. Bucarelli est parti, la parenthèse de la guerre est terminée, hein, et à partir de ce moment-là, la nomination d'un nouveau vice-roi va rendre possible, véritablement, hein, on est en 1786, va rendre possible l'application d'une, je dirais, de réforme politique inspirée de tout ce que j'ai précisé dans la première partie de mon intervention. Alors, ce vice-roi décisif, et là encore, vous allez voir que ce n'est pas par hasard, il s'appelle Bernardo de Galvez. Et oui, c'est le neveu de José de Galvez. Voilà. Et c'est vrai que la nomination du neveu du visitador, hein, va favoriser, en quelques années, hein, la prise de décision, de mesures politiques qui vont se traduire par des réformes relativement importantes, dont la plus importante sans doute pour la Nouvelle-Espagne, et je vais essayer de le montrer ici, hein, c'est la réforme des intendances. Hein. Intendances qui ont été appliquées ailleurs auparavant, mais qui en Nouvelle-Espagne, elles avaient été appliquées, je dirais, à titre expérimental, on peut dire comme ça, hein, mais qui en Nouvelle-Espagne donc, vont résister encore, hein, et donc qui maintenant, grâce à Bernardo de Galvez, vont être effectivement donc appliqués à partir de 1787. Alors, bien entendu, en Nouvelle-Espagne, la pénétration de ces réformes du gouvernement, hein, inspirées, je dirais, de la philosophie des Lumières, telle que je l'ai présentée ici, n'est pas, bien entendu, seulement dépendante de la famille Galvez. Hein. C'est vrai. Bon, il ne faut pas non plus, je dirais, personnaliser. Mais elle va coïncider, de fait, la mise en place de cette réforme des intendants, elle va coïncider avec l'arrivée de fonctionnaires, d'officiers, excusez-moi, hein, de fonctionnaires, disons, pour s'entendre, qui sont envoyés par l'Espagne pour occuper des charges clés, hein, tant au niveau central qu'au niveau régional. Or, ces hommes sont souvent différents, viennent souvent d'horizons différents, mais ils partagent, pour la majorité d'entre eux, ils partagent tous des liens familiaux, de protection ou clientélaire avec la famille Galvez. Et on voit ici véritablement que Galvez va utiliser de manière extrêmement efficace le fait qu'il ait été nommé à son retour de Nouvelle-Espagne, bon, disons pour simplifier, ministre des Indes. Et comme ministre des Indes, il a la haute main sur les nominations aux Indes, justement, dont la Nouvelle-Espagne. Et il va en effet en profiter pour placer des gens, non pas qui sont des gens à lui, donc dans une perspective clientéliste. Il y a de ça, bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il est malagueño, donc andalou, et donc, bien entendu, il est nourri de cette culture clientéliste, c'est sûr. Ça fait partie, je dirais, de son univers. Mais aussi, pour lui, c'est un moyen, hein, de concrétiser des projets de réforme, hein, qui sont dans l'air et dont on a vu qu'en Nouvelle-Espagne, ça résiste un peu. Alors, intéressons-nous un peu à ces hommes, justement, porteurs, si vous voulez, de ces réformes. Je ne vais pas tous vous les nommer, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous donner quelques exemples, à mon sens, très significatifs. Hein. deux intendants, dans deux intendances essentielles. L'intendance de Puebla. Puebla, c'est l'une des villes, enfin, une des régions les plus riches de la Nouvelle-Espagne en point de vue agricole. Et c'est une région, en plus, où l'identité créole, disons-le comme ça, est extrêmement forte. Donc, pour l'Espagne, c'est un foyer, je ne dirais pas d'opposition, mais de résistance. Donc, un intendant à la main ferme et décisif. On va nommer Flon, qui est un parent, en effet, on va le voir, donc de Galvez. Deuxième exemple, l'intendant Riaño, qui est d'abord nommé dans une petite, je ne veux pas vexer les Mexicains, ils sont peut-être de cette région, petite d'un point de vue économique, j'entends. L'intendance de Valladolid, donc le Michoacán, bon, c'est une région très importante sans doute, mais économiquement parlant, hein, on va rapidement le muter à Guanajuato. Guanajuato, c'est le grand centre minier de la fin du XVIIIe siècle. Et donc, deux intendances essentielles dans deux secteurs économiques essentiels. Et on nomme là deux hommes, en effet, qui sont tous deux des beaux-frères du vice-roi Galvez, puisque chacun a épousé une sœur du vice-roi Galvez et donc sont apparentés au visitador. Il n'y a pas seulement une parenté, je dirais, par épousailles. Hein. Ces deux hommes, Flon et Riaño, ont tous deux participé avec Galvez, parce qu'avant de devenir officier, intendant, donc fonctionnaire, administrateur, si vous voulez, ce sont des soldats. Et ils ont tous deux, tous trois, je devrais dire, avec Galvez, participé à la guerre, côté espagnol, à la guerre d'indépendance des États-Unis. Hein. Ils se sont battus, en effet, en Floride. Et c'est en Floride, donc, hein, qu'ils vont, en effet, épouser des filles qui sont d'origine française, hein, mais qui, d'origine française, de Louisiane, bah oui, parce que le père était un Français de Louisiane, hein, et qui vont donc épouser ces filles, donc descendant d'un colon français, donc qui est, je l'ai dit, apparenté à la famille Galvez. Autre exemple, vous voyez, donc là, c'est un exemple fort quand même. On voit là quand même hein, que pour ces intendances essentielles, hein, on va choisir des personnages importants. L'intendance de Yucatán, bon, c'est moins stratégique, mais quand même, hein, ben, il s'appelle Lucas de Galvez, un parent. Hein. L'intendant d'Oaxaca, c'est un homme, il n'est pas Galvez, mais il vient de Malaga, donc c'est un fidèle de Galvez. Autre exemple, le surintendant de Mexico, qui est créé aussi, surintendance qui est créé en 87, hein, Fernando de Mangino. Bon, ben c'est un ancien collaborateur de Galvez au moment de sa visite, en 1766. Bon, vous voyez donc, en fait, bon, je ne vais pas multiplier les exemples, hein, mais vous voyez bien donc qu'en fait, il y a une véritable logique dans les recrutements hein, des officiers, les administrateurs chargés hein, d'appliquer ces réformes. Autre trait également intéressant, je l'ai rapidement dit, mais je voudrais le souligner, autre trait commun qui identifie tous ces individus nommés donc à partir de 1987, plus ou moins, hein, tous ont une solide expérience militaire, hein, ce qui est tout à fait nouveau. Hein. Jusqu'alors, ces officiers du roi étaient exclusivement recrutés dans le cercle, je dirais, des administratifs. Ici, ce sont des hommes formés à l'école militaire de l'armée espagnole, bien entendu. On voit donc bien ici le souci, ou la prise de conscience de l'importance de la défense, des questions de défense. Un intendant, c'est un administrateur civil, mais en même temps, c'est aussi un chargé de l'ordre et de la sécurité militaire. Et donc, on va recruter, en effet, des officiers qui ont une carrière, une première carrière, qui est une carrière militaire. Bon, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais bon, disons que tous sont passés hein, par cette expérience militaire. On voit donc que ces hommes, proches, je dirais, du même clan, si vous voulez, qui ont survécu le même cursus, plus ou moins, partagent les mêmes convictions. Ils ont le même projet politique, hein, le même projet... la même vision, je dirais, idéologique. Et ils sont donc, en effet, tous porteurs, ou plus ou moins intensément, bien entendu, mais tous ou moins convaincus de l'importance des idées des Lumières. C'est sur cette base que l'on va voir concrètement se mettre en place des mesures politiques qui sont l'expression de cette philosophie des Lumières que j'exprimais tout à l'heure. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je prendrai trois exemples peut-être, trois ou quatre peut-être pour ne pas prolonger. Hein. Bon. Premier exemple, par exemple, le vice-roi Galvez, donc le neveu de José Galvez, il décide de mettre en place, à peine arrivé à Mexico, ce qu'il appelle, et elle s'appelle comme ça, une Junta de Ciudadanos. Junta de Ciudadanos. C'est clair, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer. Hein. Bon. L'idée est très simple. Cette Junta de Ciudadanos a pour mission de court-circuiter toutes les instances administratives de la ville de Mexico, afin de créer un lien direct entre le vice-roi et les sujets. Le Real Acuerdo, le vice-roi, l'audience, le tribunal des comptes, etc. Il s'agit donc véritablement. Deuxième exemple que je pourrais prendre rapidement, c'est la mise en place de tout un ensemble de mesures en faveur, on va dire, des groupes sociaux inférieurs de la société coloniale. Par exemple, des mesures prises pour éradiquer, disons-le comme ça. Alors, c'est vrai que ça ne va pas se faire comme ça, mais l'idée, c'est d'éradiquer l'endettement des travailleurs des haciendas. Or, on sait combien cette question de l'endettement des travailleurs des haciendas était un moyen de domination très forte sur les populations rurales. Voilà. Alors, des mesures sont prises, alors leur application ne se fera pas aisément. Mais il y a quand même, je dirais, une volonté politique, une volonté politique très nette. L'idée est simple, c'est qu'il s'agit de garantir la liberté individuelle, et en particulier la liberté de circulation. Éviter ce qui est devenu, de fait, une espèce de servage qui ne dit pas son nom. Hein. Dans cette idée, je dirais, de promouvoir, de favoriser une certaine promotion sociale, un intendant qui s'appelle Bernardo Bonavia va même jusqu'à suggérer, ça ne sera pas repris, mais il va même jusqu'à suggérer, dans une lettre, si vous voulez, qu'il adresse au Conseil des Indes, que le tribut, cet impôt qui ne pèse que sur les Indiens, qui est une sorte de macule. Vraiment, c'est le fait de payer le tribut, ça vous classe dans cette société, je dirais, d'ordre. Donc, il propose que l'on exempte du tribut tous les Indiens, sauf ceux vivant dans la nudité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire tous les Indiens qui ne sont pas intégrés à la société coloniale, c'est tout. Ce qu'il propose, on parle beaucoup de réforme fiscale, tiens, par les temps qui courent. Ce qu'il propose, c'est une réforme fiscale radicale, puisque la première ressource de la monarchie espagnole d'Amérique, à l'époque, ce n'est pas le quinto qui est devenu un diezmo, c'est le tribut. Donc, vous voyez, c'est une réforme radicale qui est suggérée. Elle ne sera pas appliquée, vous inquiétez pas. En fait, pour lui, donc, il s'agissait d'exempter les Indiens qu'il assimilait à ce qu'il appelle la gente de razón. Donc, vous voyez la nouvelle vision qu'il propose de la société coloniale. Troisième exemple que je pourrais prendre. Le règlement des intendances propose une nouvelle vision de l'État et de la société. Il faudrait reprendre article par article. Mais l'État est en fait... L'État colonial, donc qui est encore un État colonial, est proposé comme devant être vu comme un ensemble d'individus auxquels on doit offrir toutes les conditions pour qu'ils puissent se réaliser, on dirait aujourd'hui, réaliser leurs ambitions. Ce que l'on encourage, c'est le développement d'un esprit civique. Enfin, dernier exemple que je voudrais prendre, je ne vais pas abuser du temps du public, dernier exemple que je voudrais prendre, c'est que la réforme des intendances et d'autres qui vont être suggérées ou appliquées à partir de ce moment-là, partagent toutes une dernière idée commune. C'est l'idée d'une nécessaire, et ça alors en Nouvelle-Espagne, c'est une vraie révolution, d'une nécessaire décentralisation. Décentralisation. Décentralisation administrative en particulier, parce qu'il faut affaiblir, ce qu'il faut affaiblir, c'est le pouvoir du vice-roi. Voilà. Le pouvoir du vice-roi qui est trop important, hein, et qui, dans des conditions technologiques de l'époque, si vous voulez, bloque beaucoup, étant donné qu'il intervient sur tout, hein, bloque énormément les initiatives qui pourraient être prises, je dirais, à un échelon inférieur. L'intendant Flon, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, ce parent de Galvez, va même, dans un courrier, là encore, qu'il adresse, on est dans 1790, qu'il adresse au Conseil des Indes, va même jusqu'à suggérer la suppression, l'abolition du vice-roi, oui, et la création de 5 capitaineries générales dans ce qui est la vice-royauté. Ouais. Et en même temps, 5 audiences. En fait, on voit bien que ces débats dont je parle ici, et qui donc alimentent la réflexion des administrateurs, hein, de l'époque coloniale, ces débats, en fait, hein, sont, avec, je dirais, presque un demi-siècle d'avance, les débats que le Mexique indépendant va retrouver entre fédéralisme et centralisme. C'est exactement la même chose. On voit donc combien, si vous voulez, ces lumières de Nouvelle-Espagne, hein, proposent une véritable réflexion, voire même des pistes de réforme que l'on retrouvera une fois le Mexique ayant obtenu son indépendance. Conclusion donc, pour terminer peut-être. Hein. Conclusion. Comment ?
Oui, si on veut avoir.
Oui, oui, oui. Conclusion. On voit donc que la seconde moitié du XVIIIe siècle, on voit qu'en Nouvelle-Espagne, l'attraction de l'exemple français, pour faire simple, du modèle français, pour reprendre le titre de ce colloque, à travers les Lumières, cette attraction est très forte. Et qu'on peut dire qu'en Nouvelle-Espagne, nombreux sont ceux, péninsulaires et créoles, qui partagent indiscutablement ces idées, donc, venues de France et incarnées à partir de 1789 par la Révolution française. Simplement, après 89, il y a 92 et 93. Et c'est là, si vous voulez, où la rupture va se faire en Nouvelle-Espagne. Parce qu'en effet, à partir du moment où la Révolution française va prendre une voie plus radicale, allant jusqu'à couper la tête du roi, hein, eh bien, en effet, ces illustrados américains, créoles ou péninsulaires, vont avoir énormément de mal à défendre leur projet politique. Parce que ce projet politique va être identifié, en effet, aux violences de la Révolution française. Et de ce fait, et je conclurai là, et de ce fait, on peut dire que la Révolution française, les idées des Lumières, qui ont nourri la Révolution française, qui ont contribué à voir émerger en Nouvelle-Espagne, je dirais, un projet réformateur de l'État et de la société de Nouvelle-Espagne, cette Révolution française va avoir un effet contraire après 93, puisqu'elle va inciter, en effet, nombre de ces illustrados à rompre, à s'éloigner de ce danger révolutionnaire que représentent les idées des Lumières. Et ce faisant, hein, ben ça va contribuer, c'est pas le seul élément, mais ça va contribuer de manière décisive au fait, en effet, que le processus d'indépendance de Nouvelle-Espagne, c'est pas 1810, qui est une véritable révolte populaire. Et donc, à ce titre, fait aussi peur que la Révolution. Mais c'est 1821, c'est-à-dire une indépendance pactada avec, en fait, la métropole. Je vous remercie.